VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 1er octobre 2021. Vous êtes bien sûr sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des défis de l'administration Biden. Les États-Unis ont évité hier jeudi, in extremis, la paralysie des services fédéraux. Après plusieurs heures de tractation, le Congrès a finalement voté la loi des finances qui prolonge le budget actuel jusqu'au 3 décembre 2021. Une loi aussitôt signée par le président démocrate Joe Biden. Cet épisode illustre à merveille les défis auxquels fait face son administration et qui menace sur plusieurs fronts sa présidence. L'un de ces défis est notamment celui de rassembler les troupes démocrates embourbées dans une guerre fratricide autour de ces vastes projets d'investissement et de réforme. Dans l'urgence, le Congrès doit relever la limite d'endettement du pays pour éviter que les États-Unis ne puissent plus honorer leurs paiements à partir du 18 octobre. L'administration fait aussi face à des pressions concernant la décision d'imposer le vaccin contre le COVID-19 pour son traitement des migrants haïtiens à la frontière américaine, le retrait américain d'Afghanistan ou encore pour l'accord sur les sous-marins nucléaires avec l'Australie qui a provoqué la colère de la France. Pour discuter de tout cela dans l'Amérique et vous ce soir, nous avons comme invité ici à Washington René Lecq, analyste politique. René Lecq, bonsoir.
Bonsoir John.
Merci de nous renouveler votre fidélité dans cette émission depuis Annapolis dans le Maryland. Le professeur Jean-François Cesnec, politologue, économiste et chercheur à Atlantic Council. Jean-François Cesnec, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Junior Bonpetit a lié plusieurs casquettes allant de la culture à l'entrepreneuriat, mais il est surtout le fondateur du mouvement Les Congolais pour Trump. Et vous êtes à Houston. Junior Bonpetit, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir John, merci.
Ravi de vous avoir avec nous. Merci donc à tous nos invités. René Lecq, un peu plus de 8 mois après sa prise de fonction en tant que président des États-Unis, les démocrates sont-ils satisfaits de celui qu'ils ont choisi pour diriger l'Amérique?
Oui, je crois que jusqu'à présent, il n'y a aucune raison d'en douter, que ce soit, vous avez parlé de combat fratricide au sein de démocrates, mais les deux tendances, les deux grandes tendances, ce qu'on appelle un peu les démocrates modérés et les démocrates, l'autre tendance étant les progressistes, les deux tendances se réclament de Joe Biden et de son agenda. Il n'y a pas de contradiction ici, Joe Biden n'est pas un problème. Au contraire, même quelque part, Joe Biden, qui est considéré comme un démocrate modéré, est lui-même l'un des principaux défenseurs de son programme. C'est un programme qui est considéré plutôt comme un programme progressiste. Les progressistes démocrates sont tout à fait satisfaits de l'agenda de Biden. Et à la limite, j'ai même envie de dire, c'est plus les modérés dont il est l'un des leurs, qui semble avoir quelques problèmes et qui trouve son agenda peut-être un peu trop progressiste.
Jean-François Cesnec, Joe Biden a travaillé comme sénateur pendant 36 ans et comme vice-président des États-Unis aux côtés de Barack Obama pendant 8 ans. Avec un tel parcours et une telle expérience, on se serait attendu à ce qu'il soit le négociateur en chef et que les choses soient plutôt faciles pour lui. Mais cela ne semble pas être le cas avec ce qui se passe dans la mise en œuvre de son agenda. Pourquoi?
Bah, écoute,
écoutez, je pense qu'il y a quand même beaucoup de théâtre dans cette affaire. Je pense que le président ne se met pas en première ligne pour faire la négociation. Il est assez astucieux pour faire les négociations par les autres. Mais il sait très bien qu'à la limite, les progressistes seront obligés de s'aligner avec les modérés pour obtenir une loi. Parce que s'ils ne le sont pas, les républicains vont gagner beaucoup d'avantages et pourrait reprendre le Congrès dans un an et demi. Donc, à mon avis, c'est un théâtre, bien sûr, très, très bien rodé à Washington depuis des décennies. Et les démocrates veulent gagner de plus en plus du côté de leurs idées, si vous voulez, mais les républicains savent aussi que s'ils peuvent embarrasser les démocrates, c'est très bien. Alors, à la limite, le président joue ce théâtre, joue ce kabuki, un petit peu le théâtre japonais, où on connaît très bien tout le monde. On connaît l'issue de la pièce, mais tout le monde crie beaucoup.
Junior Bonpetit, dans le camp des Républicains, justement, pour lequel vous militez, quel est le jugement qu'on porte sur la présidence de Joe Biden à ce stade? Est-ce que Donald Trump vous manque un tout petit peu de ce côté?
Effectivement, John, merci pour cette belle question. Parce que depuis presque à peu près un an de l'administration Biden au pouvoir, le peuple américain est en train de réclamer et en train de voir le manque de leadership au sommet du gouvernement fédéral. Vous voyez, aujourd'hui, les États-Unis, l'image des États-Unis dans le monde est ternie et par terre. Voilà, le leadership fort qu'avait le président Trump partout dans le monde, le leadership qu'il amenait, qu'il incarnait, les respects qu'il avait au sommet de l'État américain, aujourd'hui, il y a un manquement grave. Voyez, sous tout le plan, quant à l'immigration, je pense que nous allons parler de ça, quant aux relations bilatérales avec les partenaires comme la France, les pays comme la Chine et la Suisse et la Russie aujourd'hui, ils ne respectent plus les États-Unis. Vous voyez, parce qu'il y a un leadership faible au sommet du leadership à la Maison-Blanche.
René Lecq, une guerre intestine, on évoquait cela en intro tout à l'heure, entre l'aile gauche des démocrates et les plus centristes comme Joe Manchin et Kristen Sinema menace le cœur du programme de Joe Biden, notamment le projet historique d'investir 1200 milliards de dollars dans les infrastructures américaines. Un projet qui finalement n'est pas passé hier à cause justement de Joe Manchin. Comment rassembler ces troupes selon vous? Quel impact cela peut-il avoir pour les prochaines échéances électorales chez les démocrates si la paix, entre guillemets, ne revient pas dans la maison?
Écoutez, à mon avis, John, si les démocrates échouaient sur cette question, que comme vous l'avez indiqué, que la pierre angulaire du programme de Joe Biden, qui est l'essentiel de ce qu'il a promis aux Américains pour se faire élire, ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe pour Joe Biden lui-même, pour toute son administration, mais plus important, ça sera une catastrophe pour les démocrates qui vont perdre à la fois le Congrès et le Sénat et qui vont être très affaiblis politiquement. Donc j'avoue que j'ai énormément de mal à imaginer que les démocrates ne trouveront pas leurs deux ailes, l'aile de progressiste et l'aile de modéré. Je suis à peu près persuadé, ou du moins j'espère pour eux, qu'ils trouveront une solution. Parce qu'au fond, le plus important, au-delà des questions politiciennes au sein du Parti démocrate, c'est surtout le soutien, c'est les besoins de la population américaine. Vous avez fait référence à cette loi pour les infrastructures, 1500 milliards de dollars, mais ça c'est les infrastructures lourdes au sens classique du terme, mais il y a l'enjeu, c'est ça l'enjeu principal en réalité, les 3500 milliards de ce qu'ils appellent les infrastructures sociales, ou appelez ça infrastructures humaines, qui touchent toutes les questions qui vont des allocations familiales à la question du changement climatique, à la question de l'éducation, etc., etc. Donc il y a là un programme très populaire chez les Américains. Tous les sondages le montrent. Et donc, ce seraient les Américains les grands perdants s'ils n'arrivaient pas à s'entendre.
Jean-François Seznec, je vous relance sur la même question. On est passé de justesse hier à côté du shutdown, mais justement, le président américain a besoin de ces 3500 milliards de dollars pour réformer en profondeur le tissu social des États-Unis. Est-ce que Vous pensez que les Républicains vont laisser faire ?
Non, certainement pas. Les Républicains ne vont pas laisser faire. Il y a beaucoup de Républicains modérés qui voudraient bien avoir une partie de ce programme, mais je pense que la majorité, la grande partie des Républicains et certains démocrates, bien sûr, comme vous l'avez dit, trouvent que le montant d'argent est beaucoup trop élevé et que le pays ne peut pas se le permettre. Et je pense qu'effectivement, c'est ce côté-là qui va gagner, parce que il vaut mieux avoir un petit morceau du gâteau que pas de gâteau du tout. Et je pense qu'il va y avoir des négociations, il y a des négociations en ce moment, et que les 3500 milliards de dollars qui sont demandés pour l'infrastructure humaine ne vont pas être votés. Ce sera beaucoup plus faible, ce sera peut-être 1 000 milliards ou 1 500 milliards, je ne sais pas, mais il est certain que Manchin et Sinema ne vont pas travailler avec le reste des démocrates, et c'est eux qui vont gagner. Peut-être tirer un peu plus la couverture vers eux par rapport aux républicains, mais les républicains vont avoir quand même beaucoup à dire sur cette affaire.
Junior Bonpetit, il y a donc les démocrates, les centristes, Joe Manchin, Sinema, qui sont un peu résistants, mais il y a surtout les républicains. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire échouer l'agenda de Joe Biden? Qu'est-ce que vous lui reprochez?
En fait, ce surendettement de l'économie américaine est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que c'est l'Américain moyen qui paiera les prix. Il y aura l'augmentation des taxes. Aujourd'hui, l'économie américaine est frappée de plein fouet par l'inflation. Tout est cher. Le prix du pain, le prix de l'eau, tout est frappé. Alors, lorsqu'on augmente l'inflation, là, les businessmen, les hommes d'affaires, ils vont augmenter les taxes. Et qui paiera les taxes? Les citoyens moyens. Vous voyez, nous, étant que républicains, nous sommes là pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour promouvoir le business. Alors, avoir cet argent que nous n'avons pas, ça ne vaut pas la peine d'avoir ces surendettements que l'administration Biden ne fait qu'amener depuis son accession au pouvoir.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Jean-François Seznec, on le souligne en début d'émission, le Congrès doit relever la limite d'endettement du pays. Quels pourraient être les effets d'un défaut de paiement de la première puissance mondiale sur la finance internationale?
Écoutez, ce serait très grave parce que quand même c'est le dollar est la monnaie mondiale à l'heure actuelle, et si l'État américain ne soutient pas, ne peut pas tenir sa monnaie, ça va être une crise mondiale extrêmement grave, parce que les gros investissements de tous les pays sont en dollars. Et si la valeur donc des coupons et des bonds américains va diminuer énormément, ça va faire monter les taux d'intérêt très très rapidement, ce qui va amener le monde entier dans une crise économique drastique.
René Lec, dans l'agenda de Joe Biden, il y a aussi l'immigration. Le projet de réforme irrelatif est toujours bloqué au Congrès, mais il y a surtout eu ces derniers jours ces expulsions des migrants haïtiens qui ont beaucoup heurté les sensibilités. Qu'est-ce qu'il faut en dire?
Écoutez, c'était peut-être l'un des plus gros problèmes politiques de Biden ces derniers temps, en tout cas au niveau intérieur, de politique intérieure, parce que tout le monde lui en voulait. Les républicains s'en prenaient à lui, mais les démocrates également s'en prenaient à lui, et au fond, l'Américain moyen qui a vu ces images de policiers, agents de sécurité à la frontière sur des chevaux comme des cow-boys frapper au lasso des immigrants haïtiens, c'était des images extrêmement choquantes, surtout dans un pays qui a connu 4 siècles d'esclavage. Ça rappelait un peu les scènes horribles que l'on voit dans les films sur ce qui s'est passé dans ce pays pendant 4 siècles. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, Biden a été en sérieuse difficulté, son administration, mais là, les choses sont revenues plus ou moins à la à la normale. Et la difficulté, vous savez, John, sur cette question d'immigration, c'est que toutes les administrations, qu'elles soient républicaines ou démocrates, ont un mal fou à régler cette question, parce que ils n'arrivent même pas à appliquer la loi telle qu'elle est, parce que la loi telle qu'elle est, elle est beaucoup plus généreuse que les politiques en fait de contrôle qu'il y a aujourd'hui aux frontières. En tout cas, en ce qui concerne les frontières sud, ce qui fait penser, ce qui fait dire à certains que au fond la loi, les politiques qui sont mises en place sont des politiques qui quelque part sont même racistes pour certains activistes noirs et latinos, parce que c'est la loi est appliquée dans toute sa générosité avec les pays européens, mais ce n'est pas le cas notamment avec la frontière sud des États-Unis. Il y a un problème de fond, malheureusement, je ne pense pas qu'il va être, ce n'est pas demain la veille qu'il va être réglé à mon avis.
Junior Bonpetit, l'un des défis majeurs du moment reste bien sûr la lutte contre la pandémie de COVID-19 et surtout les campagnes de vaccination entamées ici et là pour l'éradiquer. Joe Biden semble avoir fait un passage en force en imposant par exemple la vaccination aux Américains, notamment aux employés fédéraux. Votre avis là-dessus?
Et ce qui s'est passé à la frontière il y a 2 semaines, c'est horrible. Encore une fois, c'est une honte infligée à l'Amérique par l'administration Biden. C'est quelque chose qui est prémédité, qui est calculé par l'administration Biden. Ouais, parce que nous n'avons pas expérimenté ça. Et ça, l'Américain moyen a vu ces images-là, qui nous a rappelé l'esclavage. Et ça, ce n'est pas l'Amérique de Abraham Lincoln, encore moins de Donald Trump. Alors là, l'année prochaine, en 2022, l'Américain moyen, l'Américain dans son ensemble, va sanctionner l'administration Biden. Alors, pour revenir à votre question, ce qui est sur le vaccin, c'est-à-dire ce pays, les États-Unis, est une terre de liberté. La liberté est garantie par le First Amendment, par la Constitution américaine, dans son article premier, qui garantit 5 libertés de base. La liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de réunion, la liberté de pétition et la liberté d'expression. C'est 5 libertés garanties et c'est dans l'ADN de l'homme américain. Vous ne pouvez pas venir chez moi m'imposer ce qui est bien pour moi. Non, vous n'avez pas ces droits-là. Alors, c'est la liberté, c'est à moi de dégager ce qui est bon pour moi. Vous ne pouvez pas me dire prendre le vaccin par force. Ça, ce n'est pas l'Amérique que de père fondateur. Et là, nous, ici, au Texas, cette loi-là ne passe pas. Ici, c'est optional, c'est facultatif. Si vous voulez le prendre, vous le prenez. Sinon, vous êtes libre et responsable de votre santé. Et ça, encore une fois, l'administration Biden sera sanctionnée pour les élections de mi-mandat en 2022.
Jean-François Cesnec, on n'a pas aussi fini de parler du retrait américain en Afghanistan. Et selon vous, y a-t-il une menace intérieure ou extérieure, notamment terroriste, qui pèse sur les États-Unis? Si oui, d'où peut-elle venir?
Mais écoutez, il y a toujours des menaces terroristes qui peuvent venir de n'importe où. Hein, mais il est certain que ce qui s'est passé en Afghanistan n'aide pas beaucoup les choses, parce que le gouvernement afghan actuel et officiellement contre le terrorisme externe, mais en pratique, ils ne peuvent pas y faire grand-chose parce qu'ils sont vraiment contrôlés par derrière par les Pakistanais, et les Pakistanais ont leur propre agenda là-dessus. Donc, il est très dur de savoir ce qui va passer. Il est certain que la défaite américaine en Afghanistan est très grave et n'est pas une bonne chose pour l'administration Biden, mais il est certain que toutes les autres administrations ont complètement perdu, si vous voulez, ont perdu eux-mêmes en Afghanistan. Je pense qu'en fait, la population américaine est tout à fait pour le départ américain de l'Afghanistan. Ça aurait dû être fait mieux, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'à long terme, ça ait vraiment un impact énorme sur les élections. Par contre, si vraiment Al-Qaïda commence à se développer, à se redévelopper à partir de l'Afghanistan, là, on va avoir des problèmes parce que les Afghans essayent de nous empêcher d'envoyer des drones au-dessus de l'Afghanistan. Ils ne peuvent pas y faire grand-chose pour le moment, mais ça peut créer des problèmes à long terme.
René Lecq, le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations Unies que le monde est à un point d'inflexion. Il a promis de passer d'une ère de guerre implacable à une ère de diplomatie implacable avec les États-Unis engagés aux côtés, disait-il, des institutions multilatérales comme les Nations Unies. Mais sauf qu'au plan bilatéral, le ton est monté avec la France au sujet de l'accord sur les sous-marins nucléaires avec l'Australie. Qu'est-ce qu'il faut en dire?
Ah, écoutez, c'est une affaire malheureuse entre alliés, entre amis. Les Américains ont négocié un peu de manière en sous-marin, sans jeu de mots, avec les Australiens, sans en informer les Français. Les Français ont considéré qu'il y avait là une forme de traîtrise et on réagit de manière extrêmement violente. J'ai entendu Yves Le Drian utiliser des mots extrêmement forts lui-même en parlant de déception, en parlant d'insultes même quelque part. Les Français ont réagi très vivement parce que les négociations des Américains avec les Australiens leur ont fait perdre un contrat colossal. Mais écoutez, il y a ce sont des enjeux stratégiques pour l'Amérique. L'enjeu était beaucoup plus important que la question de son alliance avec la France, parce qu'il s'agissait d'un repositionnement par rapport à la Chine dans la région. Et pour les Australiens également, ils ont autrement plus intérêt à avoir une telle alliance avec les Américains qu'avec les Français, qui sont somme toute une très petite puissance militaire comparée aux États-Unis. Donc il y a là ce type de... C'est un peu, j'ai presque envie de dire, c'est la compétition entre amis et entre alliés. Mais comme vous le voyez là déjà, le ton a baissé et je pense que ça sera une histoire vite oubliée.
Alors, vite oubliée, d'autant plus qu'Emmanuel Macron et Joe Biden ont tenté de trouver une issue à cette crise diplomatique la plus grave, il faut le souligner, entre les États-Unis et la France depuis le non français à la guerre d'Irak en 2003. On tire pratiquement, et ça va très vite, à la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table très rapidement, en quelques secondes, chacun de vous, si vous pouvez. On commence par vous, Junior Bonpetit.
Merci, John, pour cette invitation, mais j'aimerais quand même, si vous permettez, laisser un mot par rapport à l'exit, la sortie brusquée des États-Unis en Afghanistan. C'est quelque chose d'inacceptable que nous avons vu. Et après avoir passé 20 ans en Afghanistan, dépensé plus de 3 000 milliards de dollars avec un dispositif d'armement très important, et ce qui est plus grave encore, laisser derrière eux les citoyens américains. Vous voyez, c'est ce que nous n'avons jamais expérimenté et ça ne pouvait même pas passer une fois avec l'administration Trump. C'est que nous avons vu un président Biden qui est faible, qui amène cette faiblesse au sommet de l'État. Aujourd'hui, l'image de l'Amérique est faible et bannie et ternie par cette désolation, cette honte. Vous voyez, une grande puissance comme ça. On ne pouvait même pas imaginer de voir de tel scénario lors de l'administration Trump. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour les co-débatteurs. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine où nous allons reprendre les Sénats et les House. Et nous, étant qu'Africains, nous, étant que Congolais, avec notre mouvement, nous mettons tous les Africains ensemble pour voter républicain, qui sont là pour la promotion des business. Et nous, les Africains, nous sommes ici pour les rêves américains. Nous sommes ici pour les rêves américains. Merci beaucoup.
C'est entendu. René Lec, le mot de la fin, quelques secondes vraiment.
Oui, écoutez, je crois que Biden jusque-là était sur une bonne trajectoire, mais tout semble un peu remis en cause par les contradictions internes au sein des démocrates. Mais je pense que cela va être réglé. Mais il faut faire attention, au mois d'avril, 38% simplement des Américains désapprouvaient sa politique économique. Aujourd'hui, on en est à 48%. Donc une augmentation de 10% d'insatisfaction. C'est là peut-être une alerte à laquelle il devrait faire attention.
Jean-François Seznec, votre mot de fin.
Écoutez, je pense que Monsieur Junior parlait des problèmes de Biden par rapport à l'administration de Trump. je pense que effectivement le respect du monde entier, si vous voulez, avait disparu sous Trump. Je pense que l'administration Trump était très mal vue dans le monde entier et que l'administration Biden a eu un très gros avantage au départ qu'ils sont en train d'annuler assez rapidement. Et il faut qu'ils fassent très attention pour garder le support du monde qu'ils avaient obtenu. Donc je pense que l'administration Biden est très au courant de ça et qu'ils vont essayer avec leur diplomatie de rattraper un peu le retard, surtout vis-à-vis des alliés en Europe et de continuer leur bataille, si vous voulez, avec la Chine pour essayer d'améliorer l'économie américaine. Tout ça est extrêmement complexe, bien sûr.
C'est avec ces mots que nous mettons fin à cette édition L'Amérique et vous. Présentation John Lydon, production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24.